Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la fièvre méditerranéenne familiale et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Isabelle Connépote. Professeur Connépote, bonjour.
Bonjour à tous.
Professeur Connépote, vous êtes pédiatre, chef du service de rhumatologie pédiatrique de l'hôpital Bicêtre au Kremlin Bicêtre et coordonnateur du centre de référence Cérémaïa, le centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire. Alors avec vous, professeur Connépote, nous allons aborder l'accompagnement des patients qui sont touchés par cette maladie rare. Et pour débuter notre entretien, qui sont les médecins qui prennent en charge ces patients atteints par la fièvre méditerranéenne familiale?
Alors, les médecins qui sont experts de la fièvre méditerranéenne familiale sont quand même essentiellement des pédiatres et des internistes. Et ils travaillent en liaison avec les pédiatres de ville et également les médecins traitants.
Et comment sont organisés les centres de prise en charge, les centres experts, et où est-ce qu'ils sont situés?
Alors, la prise en charge, et on a de la chance, elle est très organisée en France, puisqu'on a des centres experts qui sont bien lisibles. C'est ce qu'on appelle les centres de référence maladies rares. Donc, en ce qui concerne la fièvre méditerranéenne familiale, le centre de référence Cérémaïa est le centre historique. Il a aujourd'hui 3 sites qui prennent en charge exclusivement les enfants et 4 sites qui prennent en charge les adultes. Et il y a également d'autres centres qui sont maladies systémiques inflammatoires, dédiés également majoritairement aux adultes, mais il y a également aussi un centre pour les enfants, qui vont permettre finalement un plus grand maillage territorial. Tous ces centres appartiennent à un même réseau qui s'appelle la filière FAI2R, qui coordonne ces centres qui ont des mêmes thématiques. Alors, autour de ces centres de référence, il y a un maillage territorial qui est complété avec ce que l'on appelle des centres de compétences, où vous pouvez trouver des médecins également qui connaissent très bien la maladie. La différence entre les centres de compétences et les centres de référence, c'est que dans les centres de référence, on va prendre en charge parfois des patients quand même qui sont plus compliqués et les patients pourront bénéficier quand il y a lieu d'innovations thérapeutiques, par exemple. Et les centres de référence, ils vont également élaborer tout ce qui est recommandations, mais ce n'est pas exclusivement leur rôle parce que parfois, ils font également ces recommandations avec des médecins des centres de compétences.
Et au sein des centres experts, comment s'organise la prise en charge en tant que telle?
Alors, la prise en charge, elle va se faire en plusieurs étapes. La première phase, qui est une phase importante, ça va être la phase de confirmation du diagnostic, pendant laquelle le médecin, essentiellement en consultation, va reprendre un petit peu l'historique de la maladie, bien voir toutes les données cliniques, les symptômes que présentent les patients. Bien souvent, on va être amené à faire un test génétique ou alors à interpréter les résultats d'un test génétique qui aura été fait. Et le médecin va donc expliquer les résultats au patient, à la famille et les conséquences, effectivement, de ce résultat. En même temps, lors de ces consultations, le médecin va évaluer l'activité et la sévérité de la maladie en utilisant différents outils, notamment une grille de symptômes que le patient remplit chaque jour, qu'on appelle la grille Day, et d'autre part, va relever les signes d'inflammation dans le sang à l'aide de prises de sang. Au terme de cela, il y aura une discussion, bien entendu, sur la maladie, les conséquences, mais également on va prendre la décision de traiter et donc mettre le patient sous traitement de fond. Le médecin va également parler avec le patient pour l'aider à gérer les crises et lui donner des médicaments lors des crises. Et ensuite, il interviendra régulièrement en consultation pour bien vérifier que le patient répond bien au traitement. Donc, il va adapter le traitement si nécessaire, adapter également par rapport à sa qualité de vie. Les médecins qui vont prendre en charge les patients dans cette prise en charge spécialisée, ça va être essentiellement des pédiatres spécialisés, les 3/4 du temps en rhumatologie pédiatrique, des internistes, le généticien, quand il y a un généticien sur le centre, mais il faut savoir que les médecins experts connaissent quand même bien la génétique de la FMF. Et en fonction un petit peu des présentations et des complications, il peut y avoir également un rhumatologue, un gastro-entérologue, un néphrologue et éventuellement d'autres professionnels comme des psychothérapeutes si cela est nécessaire. Les dossiers les plus difficiles sont discutés en commun lors de réunions qu'on appelle RCP, réunions de concertation pluridisciplinaire. Et là, on va discuter les situations les plus compliquées en termes de diagnostic, de traitement par exemple, et en particulier devant la survenue parfois de complications. Il faut savoir que s'agissant de maladies rares, les patients vont être entrés avec leur non-opposition dans des bases de données qui sont très importantes pour mieux connaître l'histoire naturelle de la maladie, l'efficacité du traitement et le devenir à long terme. Cette prise en charge, elle va inclure également des ateliers parfois pour aider les patients à mieux vivre au quotidien.
Et est-ce qu'il existe des textes de référence pour la prise en charge de ces patients atteints de fièvre méditerranéenne familiale?
Alors, il existe effectivement des textes de référence. On va dire le grand texte de référence, c'est ce qu'on appelle le protocole national de diagnostic et de soins qui a été établi avec les centres de référence et qui donne effectivement des recommandations tout à fait importantes, d'une part pour le médecin traitant, d'autre part pour des médecins plus experts pour gérer au mieux la maladie et la suivre et la traiter dans les règles de l'art.
Et est-ce qu'il existe des spécificités en termes de parcours de soins pour ces patients qui sont atteints de fièvre méditerranéenne familiale?
Alors, il y a un parcours de soins qui est quand même particulier et qui est aussi commun à d'autres maladies auto-inflammatoires, c'est que le diagnostic est quand même rarement fait dans l'immédiat et bien souvent, les patients vont avoir des recours multiples auprès du médecin traitant ou auprès des pédiatres ou auprès des urgences de l'hôpital, essentiellement pour des crises de fièvre associées à d'autres symptômes, on le sait, comme les douleurs abdominales ou les douleurs thoraciques. Alors, plus rarement et en fonction aussi de la présentation, parfois, ils vont aller voir le rhumatologue parce qu'ils vont avoir, par exemple, une arthrite. Ou alors, ça peut être le gastro-entérologue qui est vu en première ligne parce que parfois, la fièvre est au deuxième plan et les signes digestifs peuvent être très au premier plan. Ou alors, plus rarement, ça peut être le néphrologue parce que malheureusement, le patient est vu au stade d'insuffisance rénale et le diagnostic de fièvre méditerranéenne familiale n'a pas été fait antérieurement. Alors ça, je dirais, c'est la première phase. Et une fois qu'on commence à penser au diagnostic, à ce moment-là, les patients sont adressés à des pédiatres experts en fonction de leur âge ou alors à des internistes. Et c'est vrai que ces adressages sont très variés. Ça peut être via les urgences, ça peut être via effectivement d'autres spécialités comme le gastro-entérologue, le néphrologue, etc. Soit ça peut être des associations de patients. Soit parfois, c'est le patient lui-même qui a pris un peu des renseignements sur Internet et qui va trouver des centres de référence et qui va demander effectivement une consultation spécialisée. Alors, une fois que le patient est adressé dans le centre spécialisé, dans ces cas-là, la prise en charge plus spécialisée va commencer avec, comme je le disais tout à l'heure, la confirmation du diagnostic qui va souvent passer, ou presque toujours d'ailleurs, par une confirmation, par un test génétique. Et cette prise en charge va inclure ensuite, bien sûr, la gestion des traitements. Et puis ensuite, pour ce qui est en tout cas de la pédiatrie, on va aller jusqu'à la transition pour la médecine d'adulte. Donc, c'est vraiment une prise en charge qui se fait tout au long de la vie, lors des événements de vie comme les désirs de grossesse, les grossesses elles-mêmes. En général, les patientes sont prises en charge de manière conjointe par le médecin interniste et le gynécologue, de manière à ce qu'il y ait le meilleur dialogue. Donc, en général, on essaie quand même qu'il y ait une prise en charge coordonnée. Donc, je dirais que le parcours de soins le plus compliqué, c'est surtout avant la phase du diagnostic. Une fois que le diagnostic est établi, il y a un parcours de soins qui est plus homogène entre le médecin référent expert et bien souvent le médecin de ville et le pédiatre.
Alors, vous avez rapidement évoqué l'implication des patients dans cette prise en charge, professeur Konepot. Quelles sont justement les interactions avec les patients ou les associations de patients dans cette maladie?
Alors, les interactions avec les patients, elles sont importantes. Alors, bien sûr, lors des consultations, on essaie quand même de prendre du temps et de voir un petit peu ce qui se passe. C'est bien d'avoir effectivement recours aux associations de patients. Nous travaillons depuis l'année 2006 avec l'Association française de la fièvre méditerranéenne familiale, avec laquelle nous avons écrit de nombreux ouvrages. Cette association nous a également accompagnés dans des projets de diverses recommandations. Notre collaboration la plus récente, c'est le livret FMF 50 questions, qui est donc destiné aux patients pour l'éclairer au maximum sur les préoccupations majeures qu'il pourrait avoir par rapport à sa maladie. Alors, il y a d'autres associations en Europe, en particulier, je citerai l'association fièvre méditerranéenne familiale et autres maladies auto-inflammatoires. Et également, il y a un groupe d'associations qui s'appelle Aurore 10 et qui peut regrouper d'autres associations qui peuvent inclure peut-être moins lisiblement la fièvre méditerranéenne familiale. Alors, ce qui est important, et surtout en Île-de-France, c'est que nous avons une association qui est un réseau qui s'appelle RESRIP et qui peut soutenir les patients et leurs familles au quotidien quand ils vivent avec la fièvre méditerranéenne familiale et en particulier leur faire profiter d'éducation thérapeutique avec un programme qui est un programme assez transversal qui va inclure par exemple la gestion des crises ou la douleur chronique ou le sport. Il y a également des programmes d'éducation thérapeutique plus spécialisés dans certains centres de référence et qui vont s'adresser essentiellement aux patients qui ont une fièvre méditerranéenne familiale.
Eh bien, merci mille fois, professeur Konepot, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la fièvre méditerranéenne familiale. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.